Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Le souvenir d'un écrivain génial et sulfureux, une danseuse pleine de gaieté qui se parchemine doucement, trois personnes qui s'échinent à plein temps à faire vivre une maison qui surplombe Paris et qui accueille de multiples visiteurs, amis, habitués ou de passage, curieux, fervents, fidèles, pouvant être tour à tour talentueux, brillant, obséquieux, voire ennuyeux. Voilà ce qui fait la trame de cet ouvrage, à la fois drôle, terrifiant et passionnant. Il est édité par Le Seuil, il s'intitule « La Dame couchée » et j'ai le plaisir de recevoir son auteur, Sandra Vanbrommerge. Oui, Sandra Vanbrommerge, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes l'une de ces trois personnes au service de la dame, c'est-à-dire Lucette Destouches. Vous êtes entrée donc dans cette fameuse maison de Louis-Ferdinand Céline. Dans quelles conditions ?
Au départ, c'était tout à fait un hasard. Je recherchais à financer mes études supérieures en art. Et j'avais décidé de m'occuper de personnes âgées. Je pensais à mes vieilles femmes de ma famille, mes vieilles tantes, ma grand-mère, pour lesquelles j'ai un souvenir précieux et en tout cas tendre. Et je me suis dit, je vais faire dame de compagnie, avec tout un imaginaire qui allait avec. Et en plein centre de ma rupture amoureuse avec mon compagnon, le téléphone sonne et on me propose de travailler effectivement chez une vieille dame et pas n'importe qui puisqu'il s'agissait de Lucette Destouches, la veuve de Louis-Ferdinand Céline.
Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à accepter ?
Je crois que ce qui m'a le plus amené à arriver à Meudon, à accepter ce travail, ça a été cette part de mystère. Tout à coup, avec ce nom, avec cette
réputation.
Cette réputation, mais avant même la réputation, l'imagerie d'un monde qui disparaît. Moi, j'avais en tête Michel Simon, Arletty, le cinéma de ces années-là. Et Céline, que je n'avais jamais lue, mais qui... Alors, j'avais lu la bande dessinée de Tardi, hein, comme je le dis dans le livre. Il y avait un imaginaire du vieux Paris. Et avec mon ex-compagnon, on a décidé effectivement de franchir le pas, d'y aller.
Donc, vous y êtes allée. Et alors, vous êtes entrée, je dirais, dans la divine comédie, c'est-à-dire qu'il y a l'enfer, le purgatoire, le paradis qui apparaissent tour à tour. C'est un mélange de tout ça. Le premier contact avec les lieux, comment s'est-il passé ?
Le premier contact avec les lieux, ça a été comme un gros gâteau qui me mangeait, c'est-à-dire ça a été l'inverse de la gourmandise. C'est moi qui ai été happée. J'ai été prise par un organisme de pierre, par cette entrée, par cette grille bleue qui grince et cette montée vers une maison qui n'a plus de volets ou des volets coincés dans le lierre et qui vous observe, qui vous attrape. Et effectivement, je me sentais un peu comme dans Hansel et Gretel,
oui,
vers la maison de leur perte.
C'est drôle que vous parliez de ça, parce que pour moi, j'ai eu cette impression que c'était à la fois la maison de Maléfique, qui est un personnage de conte, et Cruella aussi. Vous voyez, ce sentiment, parce que dans ce que vous décrivez, on a un sentiment d'intranquillité.
Tout à fait. Tout semble à la fois figé et vivant, agité sur lui-même comme un cœur qui bat, immobile. Et je dirais pas Maléfique ou Cruella, parce que je n'avais absolument aucune idée de l'habitante, de la reine de cette maison. Le premier contact a été vraiment avec la pierre et avec le jardin.
Mmh. Oui, mais effectivement, alors... Au-delà de la première rencontre, ensuite, vous faites référence, et c'est souvent très drôle d'ailleurs, à, par exemple, à E.T. ou à Psychose. Vous voyez, c'est pour ça que je pense à des histoires, à des contes, à des films, à des choses qui, quand même, permettent également au lecteur d'imaginer, en plus de votre texte, qui, dois-je dire, est assez prodigieux, on en parlera, la perception du temps, du travail du temps. Elle est extrêmement tangible dans votre texte.
Le, Le temps à Meudon, le temps s'arrête. Et je le dis encore au présent parce que ce temps arrêté de Meudon, je crois que je le porte en moi. C'est une expérience du temps et une expérience qu'on garde. Je ne pense pas être la seule. Alors, excusez-moi, j'ai oublié le début.
Quand je dis perception du travail du temps, parce que c'est un lieu où se sont amalgamés tous les souvenirs. Ça va être des oripeaux, ça va être de la poussière, ça va être des odeurs, il y a vétusté, il y a tout cela aussi.
C'est effectivement une accumulation du temps, des choses, d'un temps qui n'est plus, d'une époque qui n'est plus.
Qu'on essaie de figer, donc ?
Qui se fige de lui-même, qui s'accumule, c'est le temps du souvenir, en fait.
Oui, c'est ça. Et oui... vous venez d'en parler parce qu'à un moment donné, vous vous sentez dépossédé.
Oui, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il faut bien remettre dans le contexte. Le contexte, c'est que c'est effectivement 48 à 72 heures complètement fermées, enfermées dans cette maison.
Pendant 3 jours.
Voilà, 2 à 3 jours par semaine. En sachant qu'il y a 20 ans, on n'avait pas les téléphones, le réseau, comme aujourd'hui. Donc j'étais vraiment, pendant plusieurs années, vraiment coupée du monde. Coupée des miens et plongée dans ce silence et dans cette accumulation du temps, du silence, avec comme seule présence, effectivement, Lucette des Touches, Alité et la télévision et un perroquet et des chiens.
Moi, j'aimerais bien que vous nous lisiez un passage, Sandra Van Pommersch, à la page 25.
Oui. Sonnette inefficace et grand portail bleu délavé me plonge dans un temps qui m'est inconnu. Habillée d'une sévérité polaire, l'étrange maison fantôme me fait face. De hautes fenêtres me regardent, sans voler, sans cils et sans sourire, toutes prêtes à m'avaler. Dressée en surplomb d'un jardin désordonné, encerclé de dallages gris et enfoui sous des buis centenaires et de rudes conifères, la maison toute carrée me toise sans sourciller. Amazone de pierre, l'austère demeure combat bien au-delà du jardin. Le lierre dégoulinant du sol aux gouttières me grimpe déjà dans les veines, et mon corps est saisi d'enchantement, je m'abandonne. La sève de Meudon qui commence à suinter se mélange au mascara de mon innocence. Respirez, un grand coup, pour éviter les chaotiques pavés déglingués. Aboiement de chien, cri strident d'un oiseau au loin, l'accueil est sévère, et je monte vers la porte de côté, l'entrée cachée de la maison. En chemin, postées comme des fidèles gardiennes, les 2 vasques bleues du jardin de Céline veillent sur cette terre secrète et sur un fatras de peaux, de roses et de mauvaises herbes. Le désordre du lieu semble s'être figé dans un silence souverain. L'édifice est un ogre. J'ai l'impression d'être dans le conte de Hansel et Gretel, tout droit attiré par la maison de leur perte.
Alors, la question que je me posais, on a presque une réponse. Est-ce que vous sentiez que le fantôme de Céline flottait toujours dans les lieux?
Céline était partout. Céline était... Il était partout, il était d'abord en elle, en sa veuve, puisque c'est essentiellement pour ça qu'elle était visitée. Il était dans la maison par effectivement des photos, des traces, ces fameuses vasques bleues du jardin... par aussi cette aridité de la maison, cet assèchement progressif des choses.
Il n'était plus là pour la faire vivre ?
Peut-être que même quand il était là, cette maison ne vivait pas. Et quand on voit les photos, il y avait les chiens, il y avait la vie de ce couple, et en même temps, on sent quelque chose d'arrêté, quelque chose de dur, d'asséché. Puis, effectivement... qu'on y croit ou pas, il y avait pour moi aussi ce fantôme, le grincement de l'escalier, des fenêtres que j'avais fermées, que je retrouvais ouvertes, des portes fermées qui se retrouvaient entrebâillées. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être effectivement le passage d'un fantôme.
Alors, la rencontre avec madame, elle demande à être appelée madame, ça c'est d'ailleurs un côté drôle, ce besoin de dignité, d'être honorée. Madame, donc c'est Lucette des Touches, veuve de Louis-Ferdinand Céline. Cette rencontre, la première rencontre, alors c'est assez... Bonjour madame, je m'appelle Violette. Et la dame se redresse comme elle peut, bancale. Elle entr'ouvre les yeux à peine. Ses cheveux sont blonds, si blonds, presque transparents, sur un visage transparent, avec des yeux transparents, d'un bleu sans cils autour. Un bleu qui occupe toute la place de ses yeux fins, comme si la lumière venait de ce qu'il y a derrière. Derrière ses yeux, on dirait qu'il y a d'autres pays. Elle est ici, mais elle vient d'ailleurs. C'est sûr, cette dame-là. Bonjour, mignonne. Et ce sera le début de l'interminable série des mignonnes petites choses et des ouhou. C'est très vivant chaque fois. Vous savez, vous mettez des... Il n'y a pas forcément beaucoup de dialogue, mais justement des morceaux de phrases, des phrases. Et on l'imagine très bien, cette vieille dame qui dit des choses comme ça. C'est habituel chez elle.
Oui, c'est habituel. C'est aussi comme un chant d'oiseau ou un ronronnement de chat. Je tiens juste à préciser effectivement que quand je suis arrivée, la personne qui m'a accueillie m'a demandé effectivement de l'appeler madame avec tous ces petits codes liés à mon statut. Mais elle n'a jamais demandé de l'appeler madame et nous ne l'avons jamais appelée madame. Ah. Dans tous les articles, je lis effectivement madame, madame. Non, dans mon livre, je l'ai appelée madame D pour signifier oui. Madame Destouches. Donc, je l'appelais Madame Destouches.
Donc, c'est
mais
la personne...
Mais je ne l'appelais pas Madame.
D'accord, d'accord.
Et je l'appelais Madame Destouches car tout le monde se calait, en fait, sur cette façon de la nommer, à part les très proches qui l'appelaient Madame Destouches ou Lucette.
Alors, la maison était toujours pleine. Est-ce que c'est parce qu'elle avait... beaucoup d'amis ou beaucoup de curieux, enfin on va pouvoir en parler. Est-ce qu'elle avait peur d'être seule, de la solitude?
Je pense que c'est quelqu'un de profondément seul, qui a connu la solitude toute son enfance, un peu toute sa vie, et je pense pas que c'était une crainte. Pour autant, elle avait besoin, à mon sens, d'être entourée. C'était quelqu'un d'extrêmement sociable. Mais elle n'avait pas peur de la solitude. C'était une personne qui avait un monde intérieur très, très fort.
Oui, et son enfance explique certains comportements aussi, je pense. Elle a eu une enfance difficile, il me semble.
Elle a eu une enfance difficile. Elle était fille unique d'une mère qui l'a eue très jeune, qui ne s'est pas vraiment occupée d'elle. Elle a été placée chez les bonnes sœurs, chez qui elle dit avoir beaucoup souffert. Oui, elle s'est sentie seule une grande partie de sa vie, jusqu'à son mariage.
Oui. Oui, ça a été son grand amour, finalement.
Ça a été son très grand amour.
Oui. En tout cas, quand je dis, on a l'impression qu'elle a peur de la solitude, elle a cet attachement aux animaux, elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant. Alors, vous faites une description parfois impitoyable de la grande vieillesse. Vraiment. Et à la fois, c'est très bien vu. Parfois, c'est très drôle, ce que je le dis toujours. Mais parfois, on a l'impression très rude aussi, avec ce sentiment d'agacement, d'exaspération, de dégoût, voire. Effectivement, c'est ce que vous éprouviez, vous étiez jeune.
Je pense qu'elle a... Mon âge importe peu dans l'affaire, c'est...
Quand croyez-vous, on est, vraiment
je pense, et je pense parce que c'est quelque chose qu'on ne découvre, pas forcément qu'on découvre à 20 ans, à 50, à 60. Dépasser les 100 ans, c'est une chose tellement invraisemblable, c'est une expérience folle d'être à ce point mêlé à l'intimité d'un corps qui vieillit si loin. D'une âme, d'une personnalité qui vieillit si loin.
Et que le corps abandonne peu à peu.
Que le corps abandonne et en même temps tient, résiste jusqu'à plus qu'un fil, qu'un souffle de cœur. Et alors oui, il y a une exaspération, c'est parce qu'il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. Et en même temps, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour mon expérience personnelle, enfin d'avoir rencontré ce bout-là de la vie.
Et en même temps, une sorte, je dirais, d'affection, puisqu'à un moment donné, vous dites cette dame qui me plaît tant.
Oui.
Donc, il y a quelque chose qui vous attache à elle.
Alors, quand je dis sa dame qui me plaît tant, c'est au début du livre aussi. C'est-à-dire qu'elle est au début du livre, elle a 87 ans quand j'arrive. Elle est
jeune.
Elle est jeune. elle descend l'escalier, elle le monte, elle va au sauna, elle sort. Enfin, il y a beaucoup de moments d'échange. De déplacement, elle m'a marché sur le dos pour réparer mon dos, enfin, voilà. Et y a toute cette exubérance et elle parle beaucoup. Et oui, à ce moment, cette dame me plaît tant. À la fin, le lien, les dernières années, le lien est plus fort que le me plaît tant.
Il y a un attachement réel.
Un attachement et un attachement et une répulsion en même temps, parce que c'est aussi l'image de la mort, mais je dirais que c'est plus fort.
Elle est également, justement, du fait de son grand âge, elle a beaucoup de choses en elle, et vous le dites, elle a une vie intérieure certainement très dense, et puis c'est une conteuse. Il y a les récits de sa vie, de ses rencontres. Ça, c'est, vous vous êtes régalée, non ?
Surtout avec l'intonation, c'est-à-dire que tout à coup, quand elle entre dans le récit, comme j'ai essayé d'en rendre compte effectivement dans le livre, quand elle entre dans le récit, il y a une gouaille qui s'y met, il y a des liaisons qui se font, se défont, s'entrechoquent. Et là, on visite, enfin moi, je visite une époque avec ces récits.
Et des personnages illustres
aussi.
Oui, alors il y a Arletty, il y a André Malraux, il y a Michel Simon, il y a Marcel Aimé. Voilà, et tout ça, elle aime en parler. Alors, c'est une femme en même temps pleine de contradictions. Elle est, je la vois, moi, à travers de votre écrit, vous allez me dire si je me trompe, je la vois séductrice, drôle, et en même temps, elle peut être très dure.
Ah, d'une extrême dureté et d'une extrême séduction. C'est effectivement... mi-ange, mi-démon me semble un peu réducteur face à la complexité de sa personnalité, de son charme, au sens de charmer de sortilège presque. Hein. Oui, c'est une personnalité complexe, multiple.
Oui. Oui, vous dites par exemple à un moment donné, si prompte à faire disjoncter toute relation humaine. Avec le temps, l'on comprend que c'est sa volubile solitude qui fait d'elle une femme libre, aussi terrifiante qu'attachante. Le portrait est très intéressant, vraiment. Elle a ce don pour l'exagération, soumise à l'extrême et à ses propres émotions, etc. C'est un personnage extrêmement complexe. Est-ce que il s'est révélé peu à peu ou d'emblée vous avez perçu ce qu'elle était ?
Je l'ai perçu assez rapidement tout simplement en observant les effets sur les uns et les autres et sur moi-même, effectivement, de discours doubles, contradictoires,
imprévisibles même.
Oui, imprévisible, c'est-à-dire c'était une grande manipulatrice. Inconsciente en même temps par moment de la manipulation qu'elle menait. Elle était aussi victime d'elle-même, de cette nécessité du lien, de la fantaisie, de l'histoire, du côté éphémère des choses, comme un mouvement de danse. Tout à coup, ça se joue, c'est un mouvement de la relation qui se crée, et peu importe les conséquences.
Oui. Oui, dans le fond, l'analogie avec le fait qu'elle soit danseuse, effectivement. En tout cas, elle est pleine de contradictions et en fait, très vite, vous vous êtes mise à prendre, à écrire, à prendre des notes. J'ai compris que ça pouvait m'être utile sans que cela donne forcément un livre, d'ailleurs, mais c'était un moyen d'échapper à Meudon, de prendre de la distance.
Ça a été un jour très particulier. Je montais avec ma voiture, effectivement. En fait, très rapidement, en montant vers la route des gardes, quand je me suis échappée du métro et que je suis montée seule en voiture, je montais avec ma page blanche en tête. C'est-à-dire que...
Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ?
Les phrases se formaient, les sentiments montaient. Qu'est-ce que c'est aller à Meudon ? Qu'est-ce que c'est monter cette route ? Aller vers la maison de Céline ? Quel est le sentiment que je ressens à ce moment-là ? un moment donné, j'ai ressenti une fierté d'aller m'emprisonner en quelque sorte dans cette maison, quelle que soit la liberté et les avantages que ça pouvait avoir. Et ce sentiment de fierté m'a interrogée, m'a gênée et j'ai eu besoin d'écrire là-dessus. J'ai eu besoin de prendre de la distance, de mettre à plat, de mettre les mots sur ce théâtre.
Oui, très théâtre, un théâtre d'ombre. Fierté, justement, vous parlez de ce sentiment d'aller là où d'autres ne vont pas.
C'est ça, sauf que j'y allais par la petite porte. C'est-à-dire que moi, c'était par un déclassement social que j'y suis allée et que ça me posait problème.
Alors, justement, on va pouvoir en parler parce qu'en définitive, vous aviez des études assez plutôt poussées. Vous étiez dans l'histoire de l'art, je crois, non ?
J'étais en art plastique et sciences
de
l'art.
Oui, c'est ça. Oui, et donc vous avez accepté ce rôle, dame de compagnie, mais très vite ça a évolué un petit peu.
Bah, c'est surtout que ce n'était pas tellement dame de compagnie, c'était clairement assistante de vie.
Oui, et ça vous a été d'ailleurs sèchement dit par une d'entre elles en disant de la compagnie, elle a ce qu'il faut. Alors, vous parlez de l'indicible et vous parlez d'une manière très intéressante du travail des aides-soignants, justement. Vous l'avez touché du doigt parce que vous avez donc eu un nouveau statut et vous avez parlé de fierté, mais aussi de honte et déshonneur. La honte, c'est l'histoire de la classe et du déclassement. Alors pour vous, déclassement, mais pour d'autres, c'est eux touchent du doigt l'idée qu'il y a des classes sociales bien déterminées.
C'est-à-dire... Attends, vous pouvez redire ?
Oui.
Parce qu'en fait, il y a deux choses
dans votre
question.
Quand vous parlez de honte, oui. Vous parlez de la honte, de la condition des soignants, l'idée de classe. Alors vous la touchez du doigt parce que vous, ça a été... Vous considérez que c'est un déclassement. Mais pour d'autres, je pense que dans tous les cas, tout d'un coup, ils sont confrontés à l'idée de classe parce qu'on les regarde autrement. Ça existe partout, cela, d'ailleurs.
C'est ça, c'est-à-dire que moi, c'était un déclassement à partir du moment où ça a pris vraiment la moitié de ma vie et où je me suis laissée prendre et enfermer dans ce statut.
Et que vous aviez un autre projet.
Et que j'avais un autre projet, effectivement. Et y avait effectivement... Du coup, déclassement social parce que social, c'est-à-dire le regard de mes proches, de ma famille, de mon milieu. Donc le regard de l'autre fait le déclassement.
Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, vous parlez de ceux qui viennent dans cette maison, visiteurs, habitués, etc., qui oublient le prénom ou votre prénom, par exemple. Et à un moment donné, vous dites d'ailleurs, tous les mots de la vie me donnaient, ne se sont certainement pas embarrassés de la vie du petit personnel de la dame. Donc, vous notez qu'ils se rencontrent, ils sont entre eux, que malgré tout, ils sont entre eux. Et que vous, même si vous êtes là depuis très longtemps, même si vous connaissez Madame D encore mieux que d'autres, vous ne faites pas partie de ce...
Je me suis aperçue, effectivement, à Meudon, alors... plus qu'une expérience que s'apercevoir, c'est une immense émotion pour toutes les personnes effectivement qui sont dans l'ombre et qui travaillent dans le silence et cette invisibilité quand on est effectivement qu'on s'occupe des personnes très âgées ou des enfants.
Vous savez qu'on en parle beaucoup en ce moment justement.
Oui, et ce travail des invisibles, c'est
nécessaire.
Je l'ai vécu. Et effectivement, il y a cette immense proximité. Nous sommes indispensables, ils sont indispensables. On est au plus près de la vie et des préoccupations aussi de la vie des personnes dont on s'occupe. Et pour autant, on n'existe pas. Et quand le travail est terminé ou que la personne est décédée, on n'existe plus. Et je voulais absolument rendre compte, au-delà de l'histoire de Meudon, c'est pour ça que j'ai anonymisé aussi Madame Détouche en l'appelant Madame D, en faisant une figure et en changeant aussi tous les noms, c'est-à-dire de rendre compte finalement d'un théâtre social, d'un fonctionnement sociétal même qui me bouleverse, qui est un fait, mais qui continue d'exister et qui, qui me bouleverse, c'est que effectivement j'ai plus que touché des du bout des doigts que j'ai vraiment ressenti dans ma chair.
Oui, et alors ce qui m'a frappé, c'est que finalement, je pense que Céline ne portait pas en lui ce genre de ségrégation.
Je pense pas non plus. Je pense même que Madame des Touches, en elle, ne portait pas cela.
Mais son entourage, oui.
Où finalement, elle était la plus originale, la plus atypique de tout son entourage, qui finalement est un entourage très... avec ses codes.
Très conformiste, finalement.
Oui.
D'une certaine manière.
C'est ça. Ouais.
Tandis qu'elle, elle paraissait très libre.
Il y avait une vraie fantaisie, une vraie liberté qui, comme je le dis, ne crée pas pour autant de l'attachement d'elle vers les autres. Oui. Mais est peut-être assez juste que l'on soit président ou que l'on soit femme de ménage. Elle avait affaire d'abord à une personne.
Oui. Alors, je vous propose une pause musicale et nous reprenons tout de suite après.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous retrouvons Sandra Vanbremersch, qui vient nous parler de son roman, premier roman, La Dame couchée, paru aux éditions du Seuil. Alors, La Dame couchée, évidemment, telle que nous en parlons jusqu'à présent, elle n'est pas couchée du tout, elle le sera plus tard. C'est une dame qui a vécu plus que centenaire. Elle est décédée à quel âge ?
À l'âge de 107 ans.
107 ans, c'est quand même assez remarquable. Oui, alors La Dame couchée, pourquoi avoir choisi La Dame couchée d'ailleurs ? Pourquoi parce que, oui.
Moi, je n'avais pas choisi ce titre. Mais La Dame couchée, c'est effectivement ce qu'il m'est apparu comme première image quand j'ai gravi d'abord ce jardin, puis cette maison, cet escalier jusqu'à sa chambre au tatami rouge, et que sur le fatras de matelas, une pharaone couchée, trônée là. Voilà, c'était effectivement la montagne de la dame couchée.
D'accord. Alors, donc, vous êtes faisant partie du personnel aidant. Et on a parlé de la fierté que vous aviez, parce que c'est vrai quand même côtoyer un grand écrivain, même par l'intermédiaire de sa veuve, puisqu'il n'est plus là, mais et également il y a ceux qui l'ont connu, qui viennent, qui en parlent certainement. Vous parlez aussi de cette idée de déclassement. Vous êtes étudiante, vous êtes plutôt étudiante dans des matières artistiques, et vous voilà promue, et je dirais même reléguée, puisque apparemment, les visiteurs, les personnes qui viennent, ne vous accordent pas d'importance. Mais je crois qu'ils le font avec les autres personnels aidants, non, les autres membres du personnel.
Oui, c'est ça. On n'existe pas vraiment. Exception faite, je pense, si on est un homme, ça n'a pas forcément le même statut. Le regard porté n'est pas tout à fait le même.
Ah! Alors, vous parlez de cette idée justement de un peu de honte, un peu d'amertume, et on le comprend. En fait, vous avez touché du doigt ce que c'était que les classes sociales, ce mépris qu'il peut y avoir d'une classe à l'autre, cette incompréhension aussi. J'ai pensé à la philosophe Simone Weil qui partit en usine pour connaître de près ce que c'était. En fait, vous avez fait ça, sans le vouloir au départ, peut-être.
Oui et non, parce que c'était aussi dans... Là, à Meudon, c'était un milieu particulier, c'est-à-dire que c'était mu par un imaginaire. Je ne suis pas allée à Meudon pour éprouver des choses, pour m'encanailler, pour... J'ai eu d'autres jobs d'étudiante, pas forcément très, très reluisants statutairement, et pour autant, je n'en porte pas une empreinte si forte. Je pense que là, ce qui est vraiment particulier, c'est ce milieu et particulièrement autour de ce fantôme.
Oui, oui. Mais avec une prise de conscience, peut-être, là que, en fait, vous nous faites sentir qu'il y a en effet une différence, les différences classes sociales, y compris dans un milieu qu'on pourrait juger débarrassé de ce... de ces règles, dans la mesure où c'est quand même, au départ, on pourrait dire un milieu artistique, il s'agit d'un romancier, il s'agit d'une danseuse, mais en fait c'est son entourage surtout.
Je pense qu'il n'y a pas de milieu où les classes sociales ne gèrent pas les rapports. Je pense vraiment que la relation dominant-dominé est une relation à repenser. Non pas qu'il faille l'aplanir. La question, c'est celle du comportement, c'est celle de la reconnaissance de l'existence de l'autre dans les deux sens. Enfin, je parle d'un déclassement, je parle d'un choix qui est à la fois subi et à la fois choisi. Je suis victime et actrice.
Oui, tout à fait.
Voilà, la prise de conscience de chaque côté me semble nécessaire.
Mmh. Alors, on a l'impression que c'est une maison ogre qui vous a absorbé, qui vous a colonisé, finalement. Et en même temps, je pense que ça a été un vivier extraordinaire d'expériences, d'observations que l'on retrouve d'ailleurs dans votre ouvrage déjà, en partie. Peut-être que tout n'a pas été dit encore. Non ?
Tout à
fait. Est-ce que vous pouvez le considérer comme ça, d'une manière très positive, en final ?
Je pense... En fait, il y a eu différentes périodes, c'est-à-dire qu'il y a les périodes sombres, il y a les périodes d'enfermement où on vit mal effectivement cet isolement, cette forme de prison. Il y a les moments de jouissance aussi de cette prison, d'être hors de tout, hors du temps. C'est une façon aussi d'échapper au réel, hein, d'être plongé dans un ailleurs qui très certainement me convenait. La liberté que j'avais une fois quittée cette maison qui était extraordinaire. Et puis, pour en arriver à considérer ces 20 années comme un cadeau, je pense que c'est un travail de maturation, de l'écriture de ce livre, du temps aujourd'hui qui continue à passer avec ce livre, mais me don qui continue de vivre en moi, en quelque sorte. Et ce que j'ai appris avec ce temps hors du temps, c'est qu'effectivement, le temps continue de passer et travaille en nous.
Tout à fait. Elle était peuplée, cette maison de Meudon. Il y avait des animaux d'abord, beaucoup d'animaux.
Beaucoup d'animaux, surtout des petits.
Oui, alors oui, moins sympathique cela.
Très nombreux.
Lié à la vétusté, on parlera pas de manque d'entretien, parce que parmi le personnel, il y avait des personnes qui frottaient, qui faisaient le ménage, mais il y avait quand même pas mal d'araignées, pas mal de puces de livres. J'ai appris qu'il y avait des puces de livres, et là ça m'a inquiété parce que j'ai beaucoup de livres chez moi. Il y a le souvenir de Bébert, le fameux chien de Louis-Ferdinand Céline.
Chat.
Le chat. Des araignées, donc des insectes, etc. Quand je dis qu'elle est peuplée, cette maison, je pense qu'en effet, le souvenir de Louis-Ferdinand Céline, qui était une forte personnalité. Et puis, il y a tous les aidants. Alors, les aidants, ils sont trois. Il y a Angélique, Victor, Olivier. Quelles étaient vos relations avec eux ?
Les aidants, c'était Victor, Angélique et moi-même. Olivier, c'était le jardinier.
Ah.
Puis Angélique est partie à la retraite et a été remplacée par Lucille. Et Olivier a pris pendant un temps aussi le relais. Ça a été pendant 20 ans une danse, une acrobatie, une mécanique des aidants autour de Lucette Destouches. Dans l'emploi du temps, dans la gestion du temps. Nos relations étaient très solidaires. On était tous dans le même bateau, on était tous même dans le même dortoir, au dernier étage de la maison, sous les toits, avec une
vue. À vous relayer dans ce dortoir.
Nous relayer effectivement dans ce dortoir, se donner les informations quand l'un partait, l'autre arrivait. Et c'était une ronde, effectivement.
Oui. Alors, il y a des propos très drôles. Par exemple, Victor, vous dites « Personne ne sait à quoi il œuvre, mais il œuvre. » Les personnages sont très intéressants. Ils travaillent nu ou presque.
Oui.
Bon, ça aussi, c'est déjà très particulier. Angélique, donc, est en fin de carrière, si j'ai bien compris.
Elle a pris sa retraite au bout d'un certain nombre d'années, oui.
Oui. Et Olivier, lui, pour son malheur, tout pousse de travers. La végétale Meudon se faufile partout où on ne l'attend pas. Ils sont tous aussi originaux que leur patronne.
Toutes les personnes, effectivement, qui ont touché Meudon, ils sont restés, qu'il s'agisse des aidants de la maison, de la veuve Céline ou des intimes, des amis intimes, toute personne s'étant collée effectivement à Meudon a une personnalité assez particulière.
Ouais. Vous dites cette maison résiste à tout, témoin des fantaisies mondaines et des complots de tous ordres, actrice de ses failles et de ses impasses, amie des ombres et des animaux de nuit, complice de la barbarie des hommes et de l'insouciance des bêtes, Meudon la Grise cache bien des secrets sur le monde qu'elle avale tout cru.
C'est un lieu de mystère.
Oui.
C'est un lieu de secrets.
Oui. Vous parlez aussi de l'invraisemblable nature humaine que vous dites que j'ai croisés à Meudon. Alors, il y a les fidèles, il y a les indispensables. Alors, ce monsieur, cet avocat, Jack, bon, j'ai retrouvé le nom, on ne va pas le donner, puisque vous ne l'avez pas nommé, mais il est connu, l'éminence grise. Qu'est-ce qui fait qu'il est aimé de tout le monde, apparemment ?
Il est absolument charmant, comme je l'ai écrit, comme un sort. Il est charmant. C'est la personne la plus fantasque, la plus originale, effectivement, dans les amis proches, l'univers proche de la veuve Céline. C'est une personnalité vraiment hors du commun, qui
un personnage de roman, dites-vous.
Complètement, et même de plusieurs.
Parce que en même temps, il paraît effectivement original, fantasque, mais c'est quand même l'éminence grise, c'est celui qui veille à la bonne marche de la maison, finalement.
C'est lui qui a la baguette magique. C'est lui qui est impitoyable, qui en même temps est drôle et plein de fantaisie.
Oui. Qui aime le luxe, mais également la simplicité, le goût d'un verre d'eau.
Qui aime d'autant plus la simplicité qu'il connaît particulièrement bien le luxe, oui.
Oui, je crois. En fait, vous dites un cœur gros comme une maison et dur comme l'acier. Oui, un personnage complexe, de toute façon, et qui est, vous dites, vénéré et redouté. À la lecture de votre récit, je me dis, dans le fond, c'est le seul qui paraît équilibré et sensé.
C'est celui qui est le plus qui a le plus de couleurs de l'arc-en-ciel, qui a vraiment toute la palette humaine, en fait, du pire au meilleur.
Et qu'il partage.
Et qu'il partage, ou que l'on subit, en tout cas que l'on pratique quand on fait partie de son univers à un moment donné. Mais c'est à la fois quelqu'un d'extrêmement généreux et à la fois quelqu'un d'absolument implacable. Et par rapport à cette question de dureté, c'est par rapport à à sa raideur aussi. Enfin, il y a des raideurs de principes, de choix, de secrets, de décisions. Enfin, c'est une éminence grise, effectivement.
Oui, c'est ça.
Un homme du secret.
C'est ça. Alors, vous dites, en fait, donc c'est une création. Il est... Ah oui, j'ai beaucoup aimé aussi ce passage. Je ne sais pas si je vais le retrouver. C'est une création, il est... Alors, attendez, j'avais trouvé ça. Et j'ai trouvé que la formulation également, mais il y en a trop. Pourquoi qu'est-ce que j'ai fait de cela Il a souhaité écrire et a publié plusieurs ouvrages avec lesquels notamment il a cherché les décorations et les honneurs de la légitimité littéraire et artistique. À chacun ses faiblesses. Hein. Mais ce n'est pas venu. Il ne peut dépasser ce qu'il est déjà. Il n'a plus de place en lui pour créer parce qu'il est déjà une création. C'est pas mal, je trouve. Voilà. Alors, dans les personnages indispensables, il y a Lola. Lola, l'amie indéfectible. Alors là, c'est une amitié orageuse, d'après ce que j'ai compris. La plus aimée de Lucette. Lucette, c'est quand même un peu un cœur d'artichaut. Elle prend, mais elle est facilement, je crois, dans les embrouilles et les disputes, non ?
Elle se laisse prendre par l'amour, par l'envolée des choses, comme une enfant aussi, et tout à coup peut, dans un même temps, virevolter et faire disparaître cet amour naissant.
Oui.
Mais il y a des relations, effectivement, qui ont traversé toutes ces bourrasques.
Celle-là en particulier.
Et notamment
amitié,
celle-ci.
Dispute, réconciliation, et on recommence.
Oui, sur un long fleuve d'amour qui, oui, je pense, était tout à fait sincère.
Oui. Alors, Pascaline, la chef de maison, la légitime, elle a connu les Céline. C'est la seule. Est-ce que non, c'est pas la seule. Non, non. Mais combien sont-ils à avoir connu Céline parmi les permanents de cette maison?
Il y en avait deux.
Oui.
Donc Pascaline et le vieux danseur qui à la fin effectivement était décédé, qui raconte la scène de Céline mort dans la maison.
Alors elle, c'est assez étonnant parce que vous dites que c'est la seule à ne pas admirer Céline. À la limite, l'a-t-elle lu, on ne sait pas. Et du coup, cela rassure Lucette. Et ça, c'est intéressant, parce que Lucette, qui était une danseuse, et vous m'avez dit que c'était une danseuse reconnue, est-ce qu'elle n'était pas écrasée par la personnalité et la notoriété de Céline, justement?
Ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas si elle-même le savait, c'est-à-dire que c'était une femme amoureuse et amoureuse d'un homme qui prenait toute la place. En étant danseuse, elle avait aussi son espace de liberté, elle avait un autre langage.
Mais alors là, je suis tout à fait incompétente. Est-ce qu'elle avait une sorte de notoriété à l'époque?
Je ne suis pas assez compétente pour savoir si elle avait une notoriété folle en tant que danseuse.
Oui.
Elle a fait de nombreux spectacles, elle a donné beaucoup de cours de danse, elle a été reconnue, oui, pour ses compétences de danseuse.
Oui. Alors bon, il y a beaucoup d'autres personnages et vraiment c'est très intéressant de voir Angélique qui est autoritaire et drôle. Il y a la cousine Christophine qui est là pour flatter, j'ai l'impression, etc. Vous êtes restée 20 ans, pourquoi?
Je pense que quand on est plongé dans une bulle hors du temps, au bout de 20 ans, on se dit que ça fait 20 ans. On ne voit absolument pas le temps passer. Ça, c'est la première chose.
Tous les jours, il y a des choses nouvelles.
Des choses nouvelles, mais aussi un train-train, une habitude de s'extraire de sa vie et d'avoir une double vie, parce que c'est clairement une double vie. Hein. Meudon-Paris, téléphone,
c'est
maison,
vrai, c'est
temps de devenir
oui,
fou.
Comme vous dites à un moment donné.
Oui.
Et vous regrettez d'être restée longtemps ou pas?
Je n'imagine pas ma vie autrement. Donc non, bien sûr que non. Je n'ai absolument aucun regret et aucune amertume. Je prends ça, ces 20 ans, comme un cadeau.
En tout cas, premier roman réussi, il y a l'écriture à la première personne. Vous êtes Violette dans l'ouvrage. Il y a un style surprenant avec des images, des jeux de mots, des rapprochements d'idées, de films, des références. Parfois, une violence analogue un peu à celle de Céline. Alors, comme vous ne l'avez pas lu, peut-être si maintenant, peut-être que c'est entré par les pores.
C'est effectivement ce qu'on m'a dit plusieurs fois. Je pense effectivement que j'ai été imprégnée de quelque chose. J'ai été imprégnée d'une forme de violence dans cette maison. Et ensuite, j'ai mon fonctionnement qui est que tout fait image dans ma tête, tout fait réaction, tout fait image en permanence. Et c'est ma façon de transcrire.
Oui. Alors voilà, cette maison et ceux qui l'habitent, qui l'entretiennent, qui la visitent sont plein de contradictions, attirants et rebutants, charmants et redoutables, drôles et tristes. Que d'antagonisme! Mais n'est-ce pas la figure tutélaire de Louis-Ferdinand Céline qui hante ces parages, lui l'écrivain génial, inclassable, novateur, l'homme pacifiste et humaniste, mais celui aussi dont la mémoire restera toujours entachée par des odieux pamphlets antisémites. Oui, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas vraiment lui qui vit dans la maison de Meudon?
Je pense que tout le monde veut le fait vivre dans la maison de Meudon et que j'ai eu la chance de comprendre et de ressentir que cette maison est celle de Lucette Destouches.
Un grand merci Sandra Van der Merch. Je rappelle à nos auditeurs donc que votre roman s'intitule La Dame couchée, un roman mais aussi un récit. Hein. La Dame couchée, on n'a pas parlé de tout évidemment. Il est édité au Seuil. Je rappelle le nom de son auteur, Sandra Van der Merch. Un grand merci. Au revoir.
Merci.